Le premier fruit, c'est qu'il y a eu toutes sortes de manifestations, déjà du côté des autres religions. Il y a eu la réunion d'Istanbul du côté des musulmans, il y a eu les protestants, il y a eu les bouddhistes. Toutes les réactions des autres religions emboîtant en quelque sorte le pas à l'encyclique Laudato Si. Ça, c'est la première chose. Le deuxième fruit, eh bien, c'est tout un travail de commentaires, de lectures, de mise en œuvre de la part des catholiques du monde entier, pourrait-on dire. Mais là, les choses sont relativement complexes parce que le texte est très fort, profond, mais il marque quand même une forme de rupture, c'est-à-dire sur un point fondamental, il propose une réinterprétation du texte de la Genèse, de relire autrement les fameux passages, hein, l'un allant plutôt vers ce qu'on appelle l'interprétation despotique, dominez la terre, multipliez-vous. Ça, je dirais que c'est un travail de fond extrêmement important et qui va donner lieu à toutes sortes de réappropriations, de commentaires. Tout un travail qui vient juste d'être initié, un petit peu comme en son temps, Rerum Novarum, si vous voulez. Donc là, un an après, c'est trop tôt parce que c'est une sorte de travail de l'œuvre qui vient de commencer mais qui va se poursuivre pendant des décennies.
La grande nouveauté de ce texte, c'est vraiment d'avoir mis au jour des interconnexions, finalement. Savoir que la crise environnementale est aussi liée à la crise sociale, à la crise du modèle de développement. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été suffisamment clairement formulé avant, Laudato Si.
Ah oui, parce qu'avant, c'était en quelque sorte l'écologie humaine. Et là, on a l'idée d'une écologie intégrale. L'idée selon laquelle on ne peut pas, d'un côté, isoler les dégradations environnementales des relations que les uns, nous les uns avec les autres. Hein. En quelque sorte, la relation à la création et les relations entre nous, c'est comme le recto et le verso d'une même feuille de papier. Donc ça, c'est une position extrêmement importante. Et puis, évidemment, l'encyclique amène, avec sa tonalité franciscaine et avec sa reconnaissance indirecte, au moins de la valeur intrinsèque, un repositionnement, en quelque sorte, de l'humanité, du genre humain par rapport aux autres espèces.
En quoi ce texte est une rupture, selon vous ?
C'est une rupture précisément parce que, là, je m'appuie sur l'historien des sciences et techniques médiévales avec son texte publié dans la revue Science, en 67, sur les racines historiques de la crise écologique, où il avait montré en quelque sorte que dans la partie latine de l'Occident médiéval, et bien à un moment donné, on avait infléchi l'interprétation. Effectivement, on était très loin de ce qu'on pouvait trouver dans la patristique, et que c'est une certaine forme de l'interprétation despotique qui avait dominé et qui nous avait amené à imaginer en fait que le donné naturel, finalement, n'a de dignité que pour autant qu'il est transformé par l'action humaine. Et en fait, ça, c'est le fondement de la civilisation occidentale moderne. Eh bien, l'encyclique nous amène au contraire à redécouvrir la dignité du donné pour lui-même, la dignité de la création pour elle-même. Et ça, c'est une immense révolution.
Dans ce texte, le pape François a évoqué, sans pour autant rentrer dans les détails, l'idée de décroissance. On sait que cette idée aujourd'hui est de plus en plus populaire, si j'ose dire, quand on voit la limite de certains modèles économiques, la limite surtout du libéralisme et de ses excès. Est-ce que sur ce point-là, ce texte a marqué une inflexion ?
Ah oui, alors ça, c'est très clair. Mais je dirais que là, pour le coup, l'encyclique participe d'un mouvement d'inflexion qui est celui de la société en général. Évidemment, il y a toujours quelques fous, quelques aficionados qui vont vous dire qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut continuer à croître indéfiniment dans un monde fini. Mais en revanche, si vous voulez, les gens s'aperçoivent, et la démographie aussi montante est un facteur qui joue dans cette affaire, que effectivement, à 7 milliards, peut-être un jour à 12, la finitude de la planète commence à se faire ressentir assez étroitement. Ça, c'est la première chose. Et puis, je dirais, en fait, bien, si vous voulez, les trois fruits que donnait traditionnellement la croissance, elle ne les donne plus depuis très longtemps. Le premier fruit, c'était une amélioration du bien-être depuis le début des années 70. Si vous voulez. On se rend compte que lorsqu'on atteint un certain standard matériel, eh bien, lorsqu'on en rajoute, en quelque sorte, et à l'excès, comme on le fait aujourd'hui, eh bien, ça ne se traduit plus en amélioration de notre sentiment de bien-être. Et beaucoup d'études ont confirmé ces résultats. Deuxième fruit que donnait la croissance, ben, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, évidemment, la croissance détruit forcément des emplois, mais elle en créait beaucoup plus qu'elle n'en détruit. Or, ça n'est plus vrai. Ça n'est plus vrai depuis, disons, une vingtaine d'années. On a plutôt une perte nette d'emplois. Je vous rappelle que si on considère que les pays de l'OCDE, vous avez déjà 47 millions de chômeurs. Et puis, troisième élément, enfin, ça fait au moins depuis 2008-2009 que la chose est claire, mais elle était sans doute déjà un peu esquissée avant. La croissance, durant les Trente Glorieuses, par exemple, avait vraiment réduit les inégalités entre les hommes au sein de la société. Depuis au moins 2009, mais en fait depuis plus longtemps, c'est faux. La croissance produit et en masse aujourd'hui des inégalités. Ça nous fait de bonnes raisons de pouvoir regarder cette question de la croissance avec des yeux différents. Et de voir que dans certains cas, elle a peut-être encore un sens, et que dans d'autres, elle est plus destructrice qu'elle n'est créatrice. L'encyclique participe de cette prise de conscience générale.
Plus de 1000 paroisses ou communautés chrétiennes dans le monde se mobilisent pour la semaine de Laudato Si, justement un an après. On se rend compte que ce texte a suscité de très nombreuses initiatives locales, à la fois dans le partage et l'approfondissement du texte que dans des solutions concrètes. Est-ce que ça, c'est quelque chose au niveau local que vous constatez, ce dynamisme peut-être réinsufflé par Laudato Si?
Et puis, ce n'est pas simplement un dynamisme, si vous voulez, de parole ou de pensée, c'est aussi un dynamisme d'action. Par exemple, j'étais au mois d'août dernier à Saint-Étienne, il y avait un grand forum sur les chrétiens et l'écologie. Je vous assure qu'il y avait beaucoup de très nombreuses initiatives très pratiques prises par les gens dans les paroisses, sur le plan des ordres religieux et spirituels. Il y a vraiment un mouvement de fond et je crois que nous sommes qu'au début et je m'en réjouis fortement.